Avant les droits des migrants passe la gestion des flux migratoires. Le discours sur le droit des migrants, qui est pourtant celui prôné par le Conseil de l'Europe, est à ce jour totalement secondaire dans la politique européenne de voisinage. Et ce droit de fuite que le philosophe italien Sandro Mezzadra revendique pour tout migrant est quelque chose d'absent, sorti des cadres même de référence dans la pensée qui se développe aujourd'hui sur les droits fondamentaux des migrants. Et donc, toute cette stratégie du lointain, de maintenir dans le lointain, c'est vraiment quelque chose de très physique, qui engage vraiment la perception du corps de l'autre, la perception de l'altérité, et qui vise à dissocier, au fond, l'intérieur de l'extérieur. Et à dissocier le migrant, je dirais, du corps, de cette représentation du corps de l'Union européenne et du corps des citoyens de l'Union européenne, comme devant être tenu dans le lointain.
Le 20 mars 2006, le GISTI, le groupe d'information et de soutien aux travailleurs immigrés, organisait une journée d'études intitulée « Externalisation de l'asile et de l'immigration ». Juliette était sur les lieux du drame.
Voilà, donc externalisation, c'est donc pour le dire très vite, puisque Emmanuel Blanchard, membre du GISTI, va vous l'expliquer de manière extrêmement claire dans les minutes qui suivent. L'externalisation, c'est le fait que l'Union européenne se décharge de la responsabilité de la gestion des flux migratoires sur des pays qui sont hors de l'Union européenne.
Bonjour. Donc ma tâche n'est pas aisée, puisque je suis censé expliquer qu'est-ce que l'externalisation dans cette intervention qu'en quelque sorte j'ai sous-titré « L'externalisation des politiques européennes d'asile et d'immigration, qui dit le plus veut le moins ». Si on voulait s'intéresser de façon approfondie à cette question de l'externalisation, il faudrait esquisser une double histoire. Une première histoire qui serait celle des politiques européennes en matière d'asile et d'immigration. Et on devrait lier cette première histoire à une seconde histoire, qui serait celle des modalités d'analyse et d'action des organisations engagées dans la défense des droits fondamentaux, en quelque sorte la riposte à la première histoire des politiques européennes d'asile et d'immigration. Je m'apesantirai plutôt sur le second axe, c'est-à-dire celui de la riposte des associations. Et je vais m'en expliquer dès maintenant. Il me semble que l'histoire des ripostes est d'autant plus importante que si on vous lâchait aujourd'hui avec un très bon guide des politiques européennes dans le maquis législatif, des règlements, des projets, des communications de la Commission et des autres institutions européennes, vous seriez bien en peine de trouver une seule fois ce terme d'externalisation. Et alors même que ce terme d'externalisation n'existe pas dans la langue des institutions européennes, il est pourtant au cœur des préoccupations de tous ceux qui, en tant qu'espèrent, militants, citoyens, voire même politiques, s'intéressent à ces questions des liens entre les politiques européennes et leurs conséquences avec les pays qu'on pourrait appeler voisins. Donc il me semble qu'à la fois l'absence de ce terme dans le langage, je dirais, institutionnel, et l'omniprésence de ce terme dans nos préoccupations, là, il me semble que dans ce paradoxe, il y a donc la nécessité de faire la genèse de ce terme. Genèse de ce terme dont je voudrais d'ailleurs noter dans un premier temps que les projets qu'il décrit ne sont pas forcément des projets européens et encore moins des projets communautaires. C'est-à-dire qu'à l'origine des politiques d'externalisation, il y a bien souvent des politiques qui sont nées au-delà des instances européennes, dans d'autres institutions telles que le HCR, au sein de propositions gouvernementales, il y a eu des propositions anglaises, des propositions italiennes, des propositions allemandes, et plus souvent encore dans des coalitions intergouvernementales informelles. Donc je disais que ce terme, aujourd'hui, il est quasi invisible dans le langage institutionnel. Le terme qu'on trouverait le plus proche aujourd'hui, ça serait le terme de dimension externe, qu'on retrouve par exemple dans le programme de La Haye. Le programme de La Haye, en quelque sorte, c'est un programme quinquennal des politiques européennes à venir en matière d'asile et d'immigration pour les années 2005-2010. Donc dans ce programme de La Haye, par exemple, on retrouve le terme « dimension externe ». Mais si ce terme est quasi invisible, ça ne veut pas dire qu'il est impensé. Et c'est bien ça qu'on va essayer de mettre en évidence aujourd'hui. Et nous, en tant que militants, ce terme invisible mais très pensé, on a voulu le rendre visible au travers de ce que j'appellerais un coup de force sémantique qui visait à dénoncer les faux-semblants des politiques européennes. Qu'est-ce que j'appelle ces faux-semblants des politiques européennes. Pour expliquer, je prendrai un exemple très concret. Quand on introduit un nouveau contrat de travail, on ne commence pas par dire que ce contrat de travail vise à démanteler le droit du travail et à faire en sorte que les gens puissent être licenciés plus facilement. Ben, il me semble qu'il faut avoir ce type d'exemple en tête quand on veut comprendre ce qu'est la politique européenne aujourd'hui d'asile et d'immigration. Puisque, quels que soient les sujets, un projet d'abaissement des droits de tout ou partie d'une population ne peut aboutir que s'il est non dit en quelque sorte, et que s'il y a un ensemble de conditions qui cachent ce projet sont simultanément ou isolément réunies. J'ai listé trois types de conditions qui peuvent cacher le véritable objet d'une politique. Et on verra très facilement ici le lien avec ces politiques d'externalisation. Le premier type de condition qui permet justement de dissimuler, c'est que l'opacité des prises de décision politique soit telle qu'un certain nombre de normes et de pratiques finissent par s'imposer sans jamais avoir été l'objet de discussions ou de simples délibérations démocratiques. Il y a la véritable tarte à la crème du déficit démocratique des institutions européennes. On pourrait relever que le Parlement a quand même acquis de nouvelles prérogatives en matière d'asile et d'immigration, mais c'est un fait que pour les citoyens lambda, et même pour ceux qui s'intéressent de très près à ce type de politique, il est difficile de s'inscrire et de se faire entendre dans le processus de décision communautaire. Mais on pourrait donner encore beaucoup d'autres exemples. Parce que quand bien même l'Europe souffre d'un déficit démocratique, pour les questions d'asile et d'immigration, les États européens cherchent très souvent à contourner les institutions européennes. C'est-à-dire qu'ils prennent des décisions dans des cadres purement informels de coopération interétatique. Et je donnerai pour seul exemple ce qu'on appelle le G5 plus 5, c'est-à-dire 5 pays de l'Europe, la France, l'Italie, l'Espagne, il me semble qu'il y a la Grande-Bretagne et l'Allemagne, et avec les 5 pays du Maghreb, un Maghreb élargi à la Libye et à la Mauritanie. Autre exemple, on pourrait donner l'exemple des accords italo-libyens, qui sont présentés très officiellement comme des accords secrets. C'est-à-dire que c'est secret à tel point que les parlementaires italiens ayant demandé à voir ces accords, qui sont aujourd'hui effectifs, c'est au nom de ces accords qu'un certain nombre de personnes sont renvoyées quasiment chaque semaine en Libye. La réponse qui leur a été donnée, c'est qu'une partie de ces accords ne pourra pas vous être donnée, vous, parlementaires italiens, car ce sont des accords diplomatiques, policiers et donc secrets. Donc on voit bien qu'un ensemble de dispositifs qui ont aujourd'hui une importance très importante sont négociés en dehors de tout cadre démocratique. La seconde manière d'organiser ces faux-semblants, c'est de présenter les droits d'une minorité qui sont amputés comme la contrepartie des droits de la majorité ou comme une amputation au nom de principes dits supérieurs. Nous, militants de l'asile et de l'immigration, nous avons l'habitude de ce type de rhétorique. Il suffit de penser à la préférence communautaire ou nationale en matière d'emploi. C'est au nom des chômeurs français qu'on interdit l'accès à l'emploi des étrangers. On a l'habitude, c'est au nom des droits du droit d'asile qu'on fait le tri entre les vrais demandeurs d'asile contre les faux demandeurs d'asile. Donc c'est en restreignant le droit d'asile qu'on défend le droit des vrais demandeurs d'asile, si on suit cette rhétorique. D'une manière beaucoup plus générale, comment a été présentée la fermeture des frontières pour pouvoir être vendue de façon relativement démocratique, dirais-je, c'est de dire que si on veut intégrer les populations étrangères présentes, donc c'est au nom des étrangers qu'on interdit aux étrangers de rentrer dans l'espace européen. C'est une sorte de malthusianisme migratoire au nom de l'intégration. Donc, on voit bien ici qu'on a en quelque sorte une entreprise de segmentation des droits et de division du corps social qui passe très souvent par la criminalisation de certaines populations, criminalisation soit dans le droit ou à minima dans le vocabulaire utilisé. Que l'on pense à toute la rhétorique sur l'étranger fraudeur, que l'on pense à ces clandestins affrétés par des réseaux criminels internationaux. Donc on voit bien qu'ici, on a un vocabulaire, un discours qui permet de dégager un consensus à l'encontre de certaines personnes et certaines pratiques supposées. D'une certaine manière, on a un vocabulaire qui est destiné à étouffer toute velléité de contestation politique. Comment pourrait-on être pour la traite des êtres humains? C'est tout simplement impensable de se présenter comme un militant qui défend la traite des êtres humains. Or, aujourd'hui, tous les dispositifs sont pris au nom de la dignité humaine, au nom de la lutte contre la traite des êtres humains. Donc on se trouve ici, en tant que militant, face à une bataille qui, dans un premier temps, est une bataille lexicale et une bataille du vocabulaire. Si on veut s'imposer dans le ciel des idées, il faut d'abord gagner dans le terre-à-terre quotidien du vocabulaire. Et ce n'est pas quelque chose de nouveau. Si je donnais qu'un exemple très rapide, en 97-98, les grandes luttes contre les lois Debré ont peut-être mené à une victoire partielle et très imparfaite, tout le monde en convient, mais cette victoire partielle et très imparfaite n'aurait jamais été acquise si on n'avait pas réussi à remplacer dans la presse, par exemple, le terme de clandestin par celui de sans-papier. Et ben, c'est en quelque sorte cette bataille des mots qu'on est obligé aujourd'hui de mener pour contrer ce qui est très souvent une fallacieuse rhétorique humanitaro-sécuritaire. Et il est d'autant plus important de la mener qu'on est aujourd'hui face à la troisième modalité de justification politique, de politique régressive en matière des droits. Donc la troisième modalité de justification de régression en matière de droits, c'est une qui est très souvent utilisée dans les politiques réactionnaires en matière de droits de l'homme, c'est de présenter la régression des droits au nom de l'amélioration de la situation de ceux-là même qui sont victimes de cette régression et de ceux-là même qui voient leur vie fragilisée. D'une certaine façon, c'est pour leur bien qu'on leur enlève des droits. Je m'expliquerai très simplement pourquoi aujourd'hui on a introduit un système électronique de surveillance des côtes espagnoles, le système dit CIV. C'est pour empêcher que de pauvres migrants meurent dans les pateras qui leur permettaient de traverser le détroit de Gibraltar. De la même façon, pourquoi les frontières, quand je parle de frontières, aujourd'hui une frontière c'est des fossés, c'est des grillages, c'est des systèmes électroniques, c'est des gardes armés. Pourquoi les frontières entre le Maroc et les confettis coloniaux de Ceuta et Melilla ont été renforcées? C'est pour éviter que des migrants soient pris dans des nasses ou avec des conditions de vie inhumaines dans les forêts marocaines. De fait, c'est la rhétorique qui est utilisée pour présenter ces politiques. Or, le résultat, quel est-il aujourd'hui? C'est que toutes ces politiques ont eu pour seul effet d'augmenter la dangerosité des voyages. Je ne vais pas m'appuyer sur une statistique d'ONG militante. Je me contenterai de citer la Croix-Rouge, qui est loin d'être en pointe dans la dénonciation des processus d'externalisation. Selon la Croix-Rouge, depuis 3 mois, plus de 1000 immigrants seraient morts en mer entre la Mauritanie et les îles Canaries. Tout simplement parce qu'aujourd'hui, pour pouvoir atteindre les côtes de l'Union européenne, il faut utiliser des routes de plus en plus dangereuses. Donc en quelque sorte, c'est cette logique du pompier pyromane qu'il s'agit de traduire aujourd'hui dans le vocabulaire de nos pratiques militantes. Et c'est à cela que doit servir le terme d'externalisation qui vise à sortir de l'euphémisme du langage politico-administratif des décideurs en matière d'asile et d'immigration. Pourquoi parle-je d'euphémisme ? C'est que, effectivement, si on parle de dimension externe de l'asile, on pourrait dire que dans cette dimension externe, le mieux cache le moins. Qu'est-ce que la dimension externe de l'asile qui apparaît à l'agenda européen en 2000 et est mise au centre des préoccupations au cours de l'année 2003? Bon, j'aurais pu aller plus loin dans la recherche en paternité. Il y a déjà des projets en 1986 avec le gouvernement danois, mais ça ne me paraît pas forcément intéressant. C'est juste que c'est devenu central à partir de ces années 2000. Mais on aurait pu trouver des traces auparavant, puisque cette dimension externe de l'asile, elle est présentée depuis longtemps comme relevant doublement du simple bon sens. Ce double bon sens, c'est celui qui dit, premièrement, qu'il faut protéger les réfugiés au plus près de leur région d'origine, là où la majorité d'entre eux ont interrompu leur exil. Effectivement, la plupart des réfugiés n'atteignent jamais les rivages européens. Donc si on se contente de s'intéresser à ceux-là, on n'accorde des droits qu'à ceux qui atteignent les rivages européens. Donc, logique implacable. Seconde logique, c'est prendre acte du fait que les trajectoires migratoires des demandeurs d'asile et autres candidats à l'immigration sont à la fois initiées et contraintes par un contexte global d'importants déséquilibres économiques et diplomatiques. Autrement dit, il faut adapter la politique d'immigration et d'asile au nouveau contexte de mondialisation. Et c'est ce qu'on fait les États et instances européennes, à la suite du HCR, notamment avec son projet Convention Plus, en disant qu'aujourd'hui, il fallait internationaliser la question de la protection des réfugiés et demandeurs d'asile. Donc, d'une certaine façon, les organisations qui vont à l'encontre de cette logique pouvaient sembler avoir raté l'histoire du train en marche de la mondialisation. Et il nous a semblé, à ce moment, qu'on a réfléchi à ces questions, qu'un petit détour par la sphère économique permettait aussi de montrer que ceux qui étaient toujours en retard d'une histoire étaient en fait aussi très souvent ceux qui restaient attachés à un certain nombre de droits qui ne sont pas historiquement construits, mais qui sont des droits qui doivent être universels. Et c'est là que la métaphore économique de l'externalisation s'est imposée à nous au printemps 2003. Alors quand je dis « nous » ici, c'est un « nous » très large. Un peu comme les historiens des sciences qui se rendent compte qu'une grande découverte est faite toujours par plusieurs personnes. À notre tout petit niveau, le terme « externalisation » il s'est diffusé très largement et en différentes sphères. Sans doute qu'une des premières interventions publiques est celle d'Amnesty International dans sa section française, qui dans un rapport de mai 2003 ou avril 2003, je ne sais plus, un rapport sur l'Asie en Europe, utilisait ce terme d'externalisation. Et elle l'utilisait au sens où on l'utilise aujourd'hui, comme description de l'externalisation, comme processus allant à l'encontre de l'ordre juridique international. En effet, si je reprends notre métaphore économique, qu'est-ce que c'est l'externalisation? L'externalisation, c'est de la sous-traitance. Qu'est-ce que c'est la sous-traitance? C'est un détour par des PME au contour juridique flou pour contourner à la fois les capacités de réaction des syndicats et la force de prescription des conventions collectives. Et le terme externalisation dans le langage économique avait été utilisé pour donner des habits neufs à la sous-traitance et justement occulter ces pratiques de sous-traitance. Or, très vite, ces habits neufs n'ont pas caché la réalité. Et il nous semble qu'aujourd'hui, on assiste exactement à la même chose comme dans la sphère économique avec la sous-traitance, avec l'externalisation des politiques d'asile et d'immigration. On voit se mettre en place une quadruple logique qu'on pourrait résumer ainsi. Une logique de délocalisation, une logique de sous-traitance, une logique de privatisation et une logique de déresponsabilisation. Qu'est-ce que délocaliser? C'est faire en sorte que le contrôle de l'immigration ne se fasse plus à nos frontières, mais se fasse ailleurs. Aujourd'hui, il y a moins de personnes à Calais et autour de Calais, il y a moins de personnes dans nos zones d'attente, c'est parce que le contrôle se fait au-delà de nos frontières. Il se fait à ce qu'on pourrait appeler les nouvelles portes de l'Union européenne. Mais ce qu'il faut avoir en tête aussi, c'est que la délocalisation, ce n'est pas simplement et ce n'est pas que de la sous-traitance. On peut délocaliser sans déléguer à d'autres États. Par exemple, aujourd'hui, la politique de l'immigration, elle se fait dans nos ambassades dans les pays tiers. Donc, de fait, la principale responsabilité des nouvelles formes de circulation migratoire, c'est le rôle des ambassades dans la politique de visa. Et je parle de nouvelles formes de circulation, on pourrait dire qu'aujourd'hui, les visas nous ont fait revenir à une circulation médiévale, une circulation caractérisée par sa lenteur, des mois, des années pour aller d'Afrique de l'Ouest à Paris, caractérisée par sa dangerosité, caractérisée par son coût, des milliers d'euros. Et on pourrait penser que tout cela est quand même bien anachronique, à l'heure où par avion, Paris à quelques heures et centaines d'euros de Bamako, d'autres, eux, retournent au voyage à pied de nos aïeux. Second point de cette externalisation, c'est la sous-traitance. La sous-traitance qu'on connaît au travers, assez bien au travers de sa modalité sous-traitance à des États. Si on parle de l'Ukraine, quelle est la logique, quelque part, de cette sous-traitance? Ce n'est pas simplement une logique qui serait une logique simplement managériale d'avoir une plus grande efficacité en contrôlant là où les gens entrent. C'est aussi une logique où on peut espérer, en quelque sorte, que si on veut faire le tri des demandeurs d'asile en Ukraine et pas en Europe, peut-être que c'est parce que si l'opinion publique est informée des conditions de détention en Ukraine, peut-être, on peut espérer, que ces conditions de détention seraient dénoncées. Juste en quelques mots, aujourd'hui en Ukraine, c'est des milliers de demandeurs d'asile désireux de rejoindre l'Union européenne qui sont détenus au milieu de prisonniers de droit commun et font face au risque de détention infinie, selon les mots mêmes du Human Rights Watch, détention infinie tant qu'ils ne sont pas expulsés vers leur pays d'origine ou de transit. C'est aussi une sous-traitance qui passe par une sous-traitance à des entreprises. Et c'est ça que j'ai appelé la privatisation. Aujourd'hui, les contrôles, ils sont de plus en plus faits par les transporteurs eux-mêmes et non pas par les États aux prérogatives régaliennes. Un seul exemple, très anecdotique mais très rigolo. La semaine dernière, le ministre irlandais de la Culture n'a pas pu embarquer à Cork, en Irlande, pour se rendre à Dublin, en Irlande, parce qu'il n'avait pas de passeport et parce que l'entreprise Ryanair avait décidé qu'elle était effectivement en droit de faire appliquer ce règlement. Bon, il a fait le voyage en voiture, c'est pas très grave pour lui, mais c'est juste qu'aujourd'hui, des milliers de personnes ne peuvent pas embarquer du fait de la privatisation de ces contrôles et d'une privatisation des contrôles qui fait que les pouvoirs de ces entreprises sont bien souvent supérieurs, excessifs par rapport aux droits reconnus. La logique de déresponsabilisation, c'est celle qui fait que, comme dans la sous-traitance en cascade, on ne sait pas qui a employé au noir tel maçon dans une entreprise du bâtiment. Ben, aujourd'hui, quand des gardes-frontières tirent à la frontière du Maroc et de l'Espagne, on ne sait pas qui on doit incriminer devant un tribunal et quel tribunal on doit saisir. Qui est responsable de la mort des migrants de Ceuta et Melilla? Juste ceux qui ont été tués par balle, pour prendre un exemple circonscrit. Est-ce les Marocains qui sont les seuls à avoir reconnu avoir tiré? Est-ce les Espagnols dont on suppose qu'ils auraient pu tirer et qui renvoient au Maroc les réfugiés ayant réussi à pénétrer dans les enclaves et usent envers eux de violences multiples? Ou est-ce l'Union européenne qui arme à la fois Marocains et Espagnols? Donc, pour conclure, j'aimerais avoir mis en évidence que derrière la technicité et la neutralité politique supposée du langage technocratique européen, que l'on retrouve dans des expressions telles que politique de voisinage, dimension externe de l'asile, coopération opérationnelle, se cache en fait ce que j'appellerais une reconfiguration de l'ordre international. Et qu'une reconfiguration qui n'est pas une simple adaptation à la réduction des distances induites par la mondialisation. D'une certaine façon, c'est le cœur même du projet européen et le cœur même du droit international qui est remis en cause par ce qu'on appelle l'externalisation politique dont l'Europe n'a pas le monopole. Aujourd'hui, les débats ont bien montré que la sous-traitance de la torture, ça montre bien qu'on va bien au-delà de ces politiques d'asile et d'immigration quand il s'agit de se défaire des contraintes du droit international. Mais si on reste dans le simple domaine de politique d'asile et d'immigration, qu'est-ce que l'externalisation d'une certaine façon? C'est l'interdiction d'émigrer. Je pense que le partage de responsabilités que l'Union européenne a mis en place, c'est un partage qui dit aux États du Sud, aux États des frontières, vous êtes garant de l'interdiction d'émigrer. Et des États qui sont le plus soumis aux pressions de l'Union européenne, la Roumanie, le Maroc par exemple, ont introduit le délit d'émigration dans leur législation. Or, en quoi l'introduction de ce délit sape les fondements même de tous les traités internationaux? Tout simplement parce que le droit d'émigrer est en effet la contrepartie nécessaire à l'ineffectivité de la plupart des droits fondamentaux. Ces droits fondamentaux sont ineffectifs dans le sens où il n'y a pas d'instance juridictionnelle qu'on peut saisir pour les faire respecter. Donc, dans les multiples discussions qu'il y a eu dans les instances où ont été négociées ces conventions des droits de l'homme, traités sur les pactes civils et politiques, il y avait un dernier droit qui était accordé, qui était, si vous vivez dans un pays où ces droits ne sont pas respectés, vous avez le droit de vous en échapper. C'est le droit d'émigrer, que nous, en tant que militants, on aurait voulu traduire en droit à l'immigration et en droit à l'installation, qui n'a jamais été reconnu. Mais ce droit à l'émigration, il l'est dans les traités internationaux. Or, l'externalisation, dans ses différentes modalités, elle organise l'impossibilité de mouvements migratoires légaux qui seraient impulsés par les migrants eux-mêmes et réduit la possibilité de migrer aux seuls besoins des entreprises du Nord. Donc, d'une certaine façon, cette nouvelle donne, loin de traduire un nécessaire partage des responsabilités synonymes de solidarité internationale, elle conduit aujourd'hui des individus à rester condamnés indéfiniment hors du cadre protecteur de normes minimales en matière de droits de l'homme.
Tu me prends tout pour le sou. Toujours faudrait dire merci à genoux. Tu m'as eu, tu m'auras plus. C'est fini les colonies, fini le temps du mépris. Ça va changer un jour. L'habitant plante le maïs, c'est pour le gros marchand. Reste gros gens comme devant, pas le droit de dire comment. Taureau du Honduras, c'est bon pour le Texas. Pour les petits, y a que les os. La viande, c'est pour les gros, c'est pour tous les bandits. Ceux du même acabit. Diamant de Bokassa, ça c'est secret d'état. Faut pas poser de questions quand on est juste un pion. Le rhum jamaïcain dans le gosier londonien, le riz du Vietnam, demande à l'oncle Sam s'il l'a bien digéré. tu me prends tout pour dessous. Toujours faudrait dire merci à genoux. Tu m'as eu, tu m'as eu, tu m'auras plus. C'est fini les colonies, fini le temps du mépris. Ça va changer un jour. Les perles de Jacmel brillent au bout de la belle. Tous les rois, même les sous, ont leur joli bibelot. Le cuir du Chili se retrouve à Paris, le café du Uruguay se déguste à Broadway, mais le fer de Managua perce le cœur des USA. Mes frères groupent la canne et leur machette dessus, du matin jusqu'au soir, et du soir au matin en Dominicanie. Miami ou Paris, peu importe le pays, c'est à chez eux qu'ils rêvent, un jour ils vont entrer quand l'abcès va crever.
Voilà, c'était le grand haïtien Mano Charlemagne.
Voilà, on est toujours sur Fréquence Paris Pluriel 106.3 avec l'émission Les Oreilles Loin du Front. On continue à parcourir la journée qu'avait organisée le GISTI le 20 mars, journée d'études autour de l'externalisation de l'asile et de l'immigration.
Et on va entendre maintenant Claire Rodier, qui était également membre du GISTI, qui va nous parler de l'exemple extrêmement, extrêmement éclairant de la Libye.
À titre de préambule, et bien que ce ne soit pas le sujet principal de mon intervention, et encore moins une préoccupation principale en Libye, je voudrais vous parler un peu du droit applicable aux réfugiés dans ce pays. Au plan international, la Libye n'est pas signataire de la Convention de Genève de 1951 sur les réfugiés. Elle est en revanche partie à la Convention africaine sur les réfugiés de 1969, élaborée dans le cadre de l'organisation de l'unité africaine, de l'Union africaine. C'est un peu gênant parce que cette convention de l'OUA, qui est un instrument adopté sous l'égide des Nations Unies et qui prévoit que les États signataires collaborent avec le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, n'a pas été conçue pour supplanter la Convention de Genève, mais pour la compléter, c'est-à-dire que la plupart des autres États de la région sont signataires des deux conventions. D'autre part, pour que le dispositif qu'elle organise, cette convention sur les réfugiés, soit applicable, il faut en outre au minimum qu'une législation nationale le prévoie. Je dis au minimum parce que vous savez bien que l'existence d'une législation sur l'asile dans un pays n'est pas de loin toujours la garantie que le droit d'asile sera respecté dans ce pays. Mais enfin quand même, c'est un minimum. Quoi qu'il en soit, en droit interne libyen, il n'existe pas de texte sur le statut des étrangers, ni sur celui des réfugiés. Il faut se référer en la matière à ce que constitue la loi fondamentale de la République libyenne, qui est un livre vert de Muammar Kadhafi, qui a été complété en 1977 par une déclaration sur l'établissement de l'autorité du peuple. Selon cette déclaration, il faut protéger les persécutés qui sont à la recherche de la liberté. Pour le reste, la déclaration et donc la loi fondamentale s'en remet au Coran comme seule constitution de la République libyenne, ce qui renvoie pour le traitement des étrangers au droit coutumier et au droit islamique. On pourrait passer beaucoup de temps à parler de la richesse du droit coutumier dans ce domaine en Afrique, c'est pas du tout ironique ce que je dis, et analyser la conception de l'asile dans la théorie musulmane, qui au demeurant n'est pas très éloignée des principes judéo-chrétiens en la matière. Il reste que comme ailleurs, il y a parfois fort loin des principes à la pratique, et je reviendrai aux pratiques. La Libye n'entretient sur le plan politique pratiquement aucune relation contractuelle avec l'Union européenne, et même si elle a acquis en 1999 le statut d'observateur dans le processus de Barcelone, la Libye, bien qu'elle en ait vaguement exprimé l'intention au début de l'année 2004, ne paraît pas vraiment pressée d'y adhérer. Elle privilégie pour l'instant sa position au sein de l'Union africaine. Elle n'est donc par conséquent pas incluse dans la liste des pays visés par la politique européenne de voisinage, puisque l'adhésion au processus de Barcelone est un préalable à la politique de voisinage. L'Union européenne ne dispose donc d'aucune base formelle pour engager avec la Libye un quelconque partenariat sur les questions migratoires. Ceci dit, avec d'autres pays, l'Union européenne a su, indépendamment de tout partenariat politique, poser dès la fin des années 90 des jalons pour une politique d'externalisation qui était déjà en marche, pour inciter des États tiers à collaborer à sa stratégie de dissuasion à l'égard des candidats à l'émigration ou à l'exil en Europe sous la forme de plusieurs plans d'action ciblés. Les pays qui avaient été visés à l'époque étaient choisis soit parce qu'ils étaient gros fournisseurs entre guillemets de migrants ou de demandeurs d'asile, soit parce qu'ils étaient pays de transit. Alors je cite, hein, la situation a évolué, donc vous allez le voir, là, il y avait l'Afghanistan, l'Albanie, je parle donc de la fin des années 90, l'Irak, le Maroc déjà, comme pays de transit, la Somalie, le Sri Lanka. La caractéristique de ces pays, c'était que pour la plupart, ils n'étaient, alors je mets le Maroc à part, ni politiquement ni économiquement en mesure d'avoir des exigences en retour à l'égard de l'Union européenne. Ce n'est pas du tout le cas de la Libye, qui n'est pas économiquement dépendante de l'Union, mais pourtant, la position stratégique de ce pays dans les trajectoires de migrants implique visiblement que l'Union européenne passe outre cette absence totale de cadre de discussion. Et dès 2002, au sommet de Séville, ceux qui étaient alors que 15 États membres de l'Union européenne ont commencé à s'en préoccuper. En avril 2003, une mission exploratoire était organisée par la Commission européenne pour évaluer la bonne volonté des autorités libyennes à coopérer sur les questions d'immigration illégale. Vous savez, en 2003, on était à un an de l'élargissement et un facteur qui a joué pas mal, c'était la perspective de l'adhésion de Malte à l'Union européenne, puisque Malte était, comme l'Italie, un des deux pays principalement concernés par l'arrivée de boat people en provenance des côtes libyennes. Alors, la Commission est chargée d'évaluer la bonne volonté des autorités libyennes à coopérer. S'il fallait une preuve du cynisme des États européens en la matière, la mise en place progressive de cette coopération entre l'Union européenne et la Libye est très très éclairante. Elle s'est d'abord inscrite, cette coopération, dans un cadre bilatéral et multilatéral, avant d'être un cadre de l'Union elle-même. Bilatéral avec l'Italie, qui a passé dès 2003 un arrangement, resté secret, un accord, au terme duquel la Libye accepte de réadmettre les migrants de toute nationalité qui sont refoulés par les autorités italiennes qui les interceptent à leurs frontières, notamment depuis l'île de Lampedusa qui est située à l'extrême sud de l'Italie. Multilatéral ensuite, dans le cadre de ce dialogue informel intitulé 5+5, auquel participent donc les 9 pays riverains de la Méditerranée et le Portugal. Ce processus 5+5 a mis sur pied un groupe de travail sur la migration pour identifier, pour renforcer les actions concrètes de coopération, y compris avec les pays d'Afrique subsaharienne. On ne peut pas dissocier ce processus de rapprochement depuis environ 3 ans sur les questions de contrôle des frontières du contexte plus général de réchauffement des relations que l'Europe et un pays comme la Libye, qui avait été longtemps mis officiellement au banc de la communauté internationale, ce réchauffement des relations entre ces deux entités. Vous vous souvenez peut-être qu'en 2004, l'embargo sur les armes, qui pesait depuis le milieu des années 80 sur la Libye, a été levé. C'était la dernière étape d'un processus engagé depuis une décision de l'ONU de 2003 de mettre un terme au boycott commercial qui frappait le pays depuis 1988 à la suite d'un certain nombre de gages de bonne volonté donnés par la Libye, notamment l'engagement de reconnaître sa responsabilité dans les attentats commis dans les années 80 contre des intérêts occidentaux. En arrière-plan de cette réhabilitation de la Libye, il faut savoir qu'il y a des considérations qui dépassent ce qui a été dit et qui sont des considérations sonnantes et trébuchantes d'une certaine façon. Il semblerait que la Libye soit un des pays les plus attractifs dans le domaine de l'exploitation pétrolière, avec des réserves de pétrole brut qui la placent potentiellement au même niveau que le Koweït. Pour exploiter cette richesse, la Libye ne peut pas s'en sortir toute seule, elle a besoin d'investissements lourds et le blocus commercial qui était en vigueur depuis 20 ans rendait ces investissements impossibles. La décrispation des relations avec les pays occidentaux correspond donc à une convergence d'intérêts, d'une part ceux de la Libye à qui elle donne les moyens de développer le potentiel de son sous-sol, d'autre part ceux des investisseurs étrangers qui ont besoin de nouveaux sites à exploiter. Pour se convaincre de cette évolution, il suffit de recenser le nombre et la nature des visiteurs qui ont été voir le colonel Kadhafi au cours de la seule année 2004, année qui a suivi la décision de l'ONU de lever l'embargo. Alors, il y a d'abord eu le ministre français du commerce extérieur, accompagné d'une délégation du MEDEF de 70 entrepreneurs, puis dans la foulée Tony Blair avec les représentants d'un groupe anglo-néerlandais d'exploitation du pétrole. Ensuite, Gerhard Schröder et Jacques Chirac sont allés aussi faire leur marché. Silvio Berlusconi y va très très régulièrement. Lui, il a été 4 ou 5 fois pendant l'année 2004. Il y a des pipelines à faire passer. Et si officiellement le gouvernement américain, le gouvernement des États-Unis ne s'est pas déplacé, les intérêts américains étaient très présents, en particulier par le nombre de sociétés qui vont réimplanter leur activité qui avait été suspendue pendant une vingtaine d'années. Ce contexte de retrouvailles, aussi bien sur le plan diplomatique qu'économique, ne pouvait être que propice au développement d'une collaboration entre l'Union européenne et la Libye sur les questions migratoires. Parce que depuis quelques années, ce pays constitue la dernière étape avant l'Europe pour de nombreux migrants en quête d'une vie meilleure ou en quête d'une protection, notamment en provenance d'Afrique subsaharienne. C'est très difficile de mesurer l'ampleur du phénomène. Mais bon, il est quand même certain que l'étape libyenne est devenue en quelques années, en raison notamment du durcissement des contrôles qui rend de plus en plus difficile le passage du détroit de Gibraltar, un des principaux points de passage de la frontière sud. Plusieurs épisodes, vous vous souvenez peut-être de l'affaire du Capanamour au cours de l'été 2004, en ont d'ailleurs été la démonstration, et puis aussi cette spectacularisation des arrivées de bateaux par la télévision italienne notamment au cours de l'année dernière. Du coup, l'immigration est devenue, en plus des autres, un enjeu non négligeable des négociations entre l'Union européenne et la Libye. Il faut savoir qu'en plus que les autorités libyennes ont depuis très très longtemps et bien avant l'intervention de l'Europe dans leurs affaires l'habitude d'utiliser la présence des migrants qui vivent sur le sol libyen au gré de leurs intérêts diplomatiques ou géopolitiques du moment. Donc il y a de temps en temps des politiques d'accueil à bras ouverts d'étudiants du Maghreb ou d'Afrique noire, et puis à certains autres moments des rafles, des pogroms, des renvois, etc. Tout ça liés à des intérêts géostratégiques libyens dans la zone d'influence régionale. Aujourd'hui, ces mêmes ressorts d'instrumentalisation des migrants servent dans le dialogue avec l'Europe. On a commencé à entendre, par exemple, le ministre libyen des Affaires étrangères parler d'invasion pour désigner les immigrés africains en Libye, alors que ça fait des années et des années que la Libye accueillait des immigrés africains. Ensuite, il a exprimé sa crainte que des terroristes ne soient infiltrés parmi les clandestins. Dans une très très récente dépêche de l'agence officielle libyenne, il est fait état de l'arrestation de 800 infiltrés prêts à embarquer pour l'Europe en une semaine. Voilà, des infiltrés. On imagine effectivement le terrorisme par derrière. Vous voyez bien que c'est une façon, en reprenant la rhétorique de ses partenaires, pour la Libye de peser sur les Européens afin d'obtenir plus vite aide logistique et reconnaissance politique. De son côté, Kadhafi invite régulièrement l'Union européenne à aider le Maroc et la Libye et les pays voisins par son assistance financière, la fourniture d'équipements, etc. La technique s'est révélée d'ailleurs assez efficace, puisque d'une certaine façon, en ouvrant ce qu'on pourrait appeler le robinet de l'immigration vers l'île de Lampedusa, la Libye a su facilement rallier l'Italie à sa cause. Il y a d'abord eu ce premier accord opérationnel en 2003 entre les deux pays, au terme de laquelle l'Italie s'était engagée à fournir la Libye en soutien pour la formation des policiers libyens, programme de charter pour envoyer depuis la Libye des migrants en situation irrégulière vers leur pays d'origine, etc. Et puis aussi le financement de la construction de centres d'accueil pour migrants, en conformité avec le respect des droits de l'homme, paraît-il. Ce sont des informations qui ont été données non pas par les autorités italiennes, mais par la Commission européenne. Mais cet accord était resté un peu lettre morte tant que l'embargo existait toujours. Ce qui fait que l'Italie a joué un rôle très actif au sein de l'Union européenne et fait pression pour faire lever cet embargo. À un moment donné, même, les Italiens avaient menacé leurs partenaires européens de violer l'embargo pour pouvoir réaliser le contenu de cet accord avec la Libye, notamment en termes de fourniture d'instruments tels que hélicoptères, vedettes, radars, etc., etc., qu'ils ne pouvaient pas fournir à cause de l'embargo. C'est dans ce contexte qu'a été organisée à la fin du mois de novembre 2004 une deuxième mission de la Commission européenne en Libye, destinée donc à décider des mesures à prendre pour une coopération avec ce pays sur le thème migratoire. Quand on lit le rapport qui a été réalisé par la Commission européenne à la suite de cette visite, on comprend pourquoi elle n'a pas voulu le rendre public. Il a été d'ailleurs largement diffusé, hein, mais officiellement il n'a pas été rendu public, puisque la délégation de la Commission européenne conclut, en gros, hein, Il est assez long, ce rapport. Que les autorités libyennes n'ont pas vraiment joué le jeu au cours de la visite de leur délégation. Notamment, ils se sont dérobés à beaucoup de rendez-vous qui étaient prévus. Que les quelques camps de détention de migrants qu'ils ont pu visiter ont de toute évidence été préparés avant l'arrivée de la délégation, afin de les présenter sur leur meilleur jour. Que même dans ces conditions, les violations des droits de l'homme y sont flagrantes et visibles. Que la mission n'a pu obtenir aucune information ni données concrètes quant aux procédures régissant les expulsions d'étrangers, dont elle a seulement appris qu'elles sont généralement collectives et se déroulent vers les pays d'origine sans examen de la situation personnelle de chaque détenu. Il ajoute ce rapport que la Libye considère qu'elle n'accueille que des migrants économiques qui viennent en Libye pour gagner de l'argent et rentrer chez eux, qu'elle n'a pas l'intention d'introduire une politique de distinction légale et formelle entre demandeurs d'asile et migrants économiques, de peur de créer un appel d'air, alors même que dans les camps qu'elle a visités, la mission a rencontré des personnes en quête de protection internationale, voire déjà reconnues réfugiées par le HCR dans d'autres pays. La mission rappelle enfin que la Libye n'est pas signataire de la Convention de Genève sur les réfugiés, qu'il n'y a aucun accord de coopération entre la Libye et le HCR, que le bureau du HCR à Tripoli n'a aucun statut officiel, il est juste toléré, et que par conséquent, aucune protection internationale des réfugiés n'est assurée dans le pays. En conclusion de ce rapport, la Commission européenne décide que l'intérêt et de continuer sur la voie de la coopération et d'une intensification de la coopération avec la Libye sur la question du contrôle des frontières et du transit des migrants et des demandeurs d'asile. Il n'a pourtant pas manqué de mise en garde contre cette perspective. Le HCR, qui est très bien placé pour parler de la question puisqu'il s'est engagé dans un programme financé par la Commission européenne qui est destiné à préparer le renforcement des mécanismes de protection dans les pays d'Afrique du Nord, y compris la Libye, le HCR a rappelé à la présidence de l'Union que la Libye ne peut pas être considérée comme un pays sûr pour les demandeurs d'asile. Amnesty International et Human Rights Watch ont confirmé qu'il n'existe en Libye aucune garantie concernant les droits des réfugiés. Le Parlement européen a adopté une résolution dans laquelle il condamne fermement les renvois de migrants pratiqués par les Italiens vers la Libye, en estimant que ce pays pratique, je cite, « l'arrestation arbitraire, la détention et l'expulsion ». Le Parlement se dit préoccupé par le traitement et les conditions de vie déplorables des personnes détenues dans les camps en Libye et les rapatriements massifs de la Libye vers leur pays d'origine d'étrangers dans des conditions qui n'assurent ni leur dignité ni parfois leur survie. Beaucoup d'autres ONG sont intervenues dans le même registre, notamment ECRE, un regroupement d'ONG des 25 États membres spécialisés dans la défense des réfugiés et des demandeurs d'asile, qui, constatant que le rapport de mission de la Commission lui-même montre à quel point la Libye est éloignée des standards minimaux en matière de protection et pose la même exigence quant à la signature par le pays au minimum de la Convention de Genève avant toute négociation pour l'établissement de relations sur les questions migratoires. De nombreux des témoignages de migrants passés par les prisons libyennes attestent que les droits de l'homme y sont régulièrement bafoués. Mais je voudrais vous citer plutôt un témoignage qui ne provient pas de migrants, mais qui provient du responsable des services de sécurité italiens qui a été récemment auditionné par une commission du Sénat italien à propos d'une visite qu'il avait effectuée dans les centres de rétention d'étrangers financés par l'Italie en Libye. Donc ce préfet, Mario Mori, a déclaré devant les sénateurs que les clandestins sont captés comme des chiens, c'est une mauvaise traduction de l'italien, mis sur des camions dans des centres où les surveillants, pour entrer, doivent se mettre des mouchoirs autour de la bouche à cause des odeurs nauséabondes. Il ajoute que le centre qu'il a vu prévoit d'héberger 100 personnes, mais il y a 650 personnes entassées les unes sur les autres sans le respect de quelques règles hygiéniques et dans des conditions terribles. Donc je rappelle qu'il s'agit d'un représentant officiel des autorités italiennes qui a été chargé de voir comment se passait finalement l'application de l'accord passé entre l'Italie et la Libye sur le traitement des étrangers dans les camps libyens. Forte de toutes ces mises en garde, l'Union européenne a décidé en juin 2005 de s'engager dans une stratégie de long terme avec Tripoli pour lutter contre l'immigration illégale depuis les côtes libyennes vers ces côtes. Dans un premier temps, une enveloppe de 2 millions d'euros a été débloquée par la Commission européenne pour soutenir des opérations spécifiques afin de faire face aux situations d'urgence provoquées par l'immigration illégale en Méditerranée. Ce n'est qu'un début parce qu'elle vient d'annoncer son intention d'accroître son soutien financier à la Libye. Ça a été annoncé par le commissaire chargé des affaires d'immigration très récemment. Je précise, je fais ici une parenthèse pour préciser qu'on ne connaît pas la base légale du financement par l'Europe de la coopération avec la Libye en matière migratoire, notamment du fait que la Libye n'entre dans aucun des programmes politiques officiels de l'Union européenne dans ce domaine, comme on l'a dit au début. Donc de l'argent est parti, va encore être fourni à la Libye, mais on ne sait pas sur quelle base légale. D'ailleurs, il y a un travail parlementaire qui est en train de se mettre en place pour demander des comptes à la Commission européenne sur ce sujet. Dans le cadre de cette coopération, des gardes-frontières et des policiers libyens vont être associés ou sont déjà associés dans des patrouilles européennes en mer. Et un groupe de travail est chargé de mettre au point un plan d'action conjoint pour le sauvetage en mer d'embarcations transportant des immigrés clandestins. Dans ce contexte, quid du sort des personnes qui abordent ces embarcations qui vont être interceptées auraient besoin de protection, compte tenu de ce qu'on sait de la législation libyenne en la matière et de la pratique? Pas de problème, dit le commissaire européen chargé des questions d'asile et d'immigration, le commissaire Frattini, puisque la Libye a promis l'adoption au Parlement d'une nouvelle législation exhaustive en matière d'asile. Donc on est tranquille. Quid du traitement des migrants sans papiers qui seront refoulés en Libye quand on sait les conditions dans lesquelles ils sont détenus, raflés, déportés, etc. Pas de problème, nous répond Frattini, en s'appuyant sur les assurances de son ami et ministre italien de l'Intérieur, qui très récemment a publiquement défendu la qualité des centres de rétention en Libye. Donc c'était à quelques semaines des déclarations de son préfet que je vous ai cité tout à l'heure. Selon lui, les centres de rétention en Libye offrent toutes les garanties possibles. Et d'ailleurs, les observateurs italiens et internationaux peuvent y aller quand ils veulent. Ceci dit, la protection des côtes pour empêcher les migrants de quitter la Libye, comme c'est en train de se faire en ce moment, ne suffit pas, puisque l'Union européenne a décidé, c'est aussi le commissaire Frattini qui l'a annoncé, de les empêcher maintenant d'arriver en Libye, et on est exactement dans le cadre de la politique d'externalisation. Dans un rapport présenté début mars, un député européen maltais qui a été faire une mission en Libye, lui aussi, demande que soit intensifiée la coopération avec la Libye pour l'aider à gérer les immigrés concentrés au sud du pays. Et il note, en le regrettant, que les immigrés venus d'Afrique subsaharienne sont très nombreux encore maintenant, parce que la Libye n'exige pas encore de visa de ses ressortissants. Et on se doute que l'étape d'après, ce sera que l'Union européenne impose à la Libye, ou convainque la Libye, ça ne devrait pas être très compliqué, d'exiger des visas des subsahariens qui arrivent par sa frontière sud, ce qui éviterait d'avoir à les bloquer en Méditerranée avant qu'ils n'arrivent à Lampedusa. À travers l'exemple caricatural de la Libye, on pourra sans doute bientôt faire le parallèle avec ce qui ne va pas manquer de se passer en Biélorussie ou en Ukraine. L'Europe fournit une excellente illustration de ce qu'elle entend par la dimension externe de la politique d'asile et d'immigration, selon l'euphémisme qu'utilisent les chefs d'État et de gouvernement, notamment dans le programme de La Haye, quels que soient les pays à l'Est ou au Sud qui sont visés par cette politique. On voit bien que l'urgence ici, c'est que les migrants n'arrivent pas en Europe, que les demandeurs d'asile n'arrivent pas en Europe et qu'ils soient contenus, quelles que soient les conditions, en amont de ces frontières. Tout le reste, l'enfermement dans des camps, la maltraitance, les renvois, les regroupements forcés, la violation du principe de non-refoulement et du droit d'asile, tout ça relève probablement des dégâts collatéraux d'une politique de voisinage fondée sur l'avenir de paix et de prospérité de l'Europe.
Africa. D'ici ou d'ailleurs, nous sommes des enfants d'Afrique. Même si le ciel tombait, luttons pour la paix. Kondiamo Africa, mon laïnia. ne jamu Afrika moy suñu natangé Africa. Ici ou ailleurs, la paix crie du bonheur. Même si le ciel pleurait, luttons pour nos frères. Comme Diamo Africa, mon laïnia. Mané Diamo Africa, moi je suis natangé.
Voilà, on est toujours sur Fréquence Paris Pluriel 106.3, l'émission les oreilles loin du front. On continue à entendre des extraits de ce qui s'est passé lors de du 20 mars 2006, lors de la journée d'études organisée par Logisti sur l'externalisation de l'asile et de l'immigration.
Et en guise de conclusion, on va entendre Emmanuel Blanchard, donc que vous avez entendu tout à l'heure déjà, toujours du Gisti, et à la suite, Ghislaine Glasson-Deschaumes de la Maison de l'Europe de Paris, également de la plateforme non gouvernementale Euromed.
La politique d'externalisation, elle tend à durcir, à créer des frontières qui n'avaient pas d'existence autre que légale. Les philosophes de la frontière, ceux qui ont étudié la question de la frontière, montrent bien qu'une frontière, c'est quelque chose de juridique, mais ça peut aussi quelque chose d'économique, quelque chose de culturel. Et par exemple, la zone sud de la Libye, il y avait une frontière interétatique qui était juridique, mais qui était une frontière qui était d'une porosité totale et qui n'avait pas d'existence pour les populations qui vivaient de chacun de ces côtés de la frontière. Or, aujourd'hui, l'Europe poursuit une espèce d'utopie qui est de faire en sorte que les frontières deviennent infranchissables et que la frontière juridique devienne aussi une frontière géographique, économique, humaine. Et il me semble que ce processus conduit à une aporie pour la politique européenne. Tout simplement parce que quand on étudie un peu les trajectoires migratoires des personnes qui arrivent en Europe, de fait, elles arrivent en Europe après un premier échec d'un projet migratoire au plus près. Aujourd'hui, si la migration en provenance d'Afrique de l'Ouest est si importante, c'est tout simplement parce qu'un certain nombre d'États d'Afrique de l'Ouest, tels que la Côte d'Ivoire, par exemple, qui étaient des États d'accueil, ne sont plus en mesure d'accueillir les populations qui, traditionnellement, migraient pour subvenir à leurs besoins. Donc si l'Europe, elle durcit et ferme les frontières en Afrique, elle alimente l'immigration vers l'Europe. Parce que l'immigration vers l'Europe est toujours une immigration de second choix. Les gens cherchent d'abord à vivre au plus près de chez eux et ont des projets migratoires au plus près. Quand ces projets migratoires au plus près sont impossibles, ils tentent le grand voyage, même si ce grand voyage est lui-même quasi impossible et en tout cas dangereux.
Il y a aussi le travail qui doit être fait effectivement sur le double langage de l'Union européenne. C'est ce à quoi on s'attache beaucoup dans la plateforme non gouvernementale romaine, essayer de déconstruire ce double langage, de le traquer, de l'identifier et de renvoyer l'Union européenne à la responsabilité qu'elle se fixe elle-même, qui est celle des principes qui lui sont fondateurs. Je crois qu'il faut aussi faire en sorte que la politique des États membres soit bien mise en lumière, je pense notamment à la politique française, le projet actuel CESEDA, en contradiction avec certains volets fondamentaux du droit européen. Aujourd'hui, CESEDA est en complète contradiction avec le droit européen, avec la Convention européenne des droits de l'homme, avec tout ce qui est prôné par le Conseil de l'Europe et aussi avec la Charte européenne des droits fondamentaux. Aujourd'hui, on doit absolument articuler justement cette question de l'immigration jetable et cette question du droit à l'immigration. Il faut pouvoir articuler, il faut pouvoir penser les deux en même temps. On ne peut pas penser l'un sans l'autre. Parce qu'au fond, ce qui est en question, je crois, c'est vraiment le droit à l'asile, le droit à l'hospitalité, le recul de la notion même d'hospitalité. On en parlait tout à l'heure sur l'apparition, le surgissement de frontières tangibles au sud du Sahara, qui, autre que les frontières naturelles, je dirais, que représente le Sahara, dans des pays qui, justement, ont toujours vécu la circulation et le mouvement comme intrinsèquement inscrits dans leur paysage, dans leur histoire. Donc, c'est ça qu'il faut réussir à penser. Et je pense que aujourd'hui, l'Union européenne dit « Notre politique sécuritaire des 15 dernières années est un échec ». Elle le dit, c'est écrit notamment dans les récents documents de cadrage de la Commission pour la définition d'un cadre européen des politiques migratoires. Donc, on va faire de l'utilitarisme. Mais dans l'utilitarisme, effectivement, ce qui est en cause, c'est le droit à émigrer, non pas en général, mais le droit à émigrer selon sa propre volonté. Donc, c'est l'Union européenne qui va définir les cadres admis pour ce droit à émigrer. Donc il y aura une sélection, je dirais, qui sera une sélection du projet de l'émigré. Si l'émigré a un projet en phase avec l'Union européenne, il y aura effectivement non pas une interdiction, mais un contrôle sélectif. La deuxième chose peut-être qu'il faut signaler, c'est que on a aujourd'hui véritablement une sélection des provenances de l'immigration dans le lien avec la lutte contre le terrorisme, et que là encore, on a une stratégie de contrôle de l'immigration en fonction des pays sources, une stratégie dont on peut dire qu'elle est culturaliste, pour ne pas dire ethniciste. Et c'est aussi, quand on voit la politique espagnole aujourd'hui, de large ouverture sur les pays latino-américains, tout en ayant une fermeture importante sur les pays du sud méditerranéen, je crois qu'on a là un exemple paradigmatique de ce qui est la nouvelle politique de Tony Blair, déclarée tout récemment, avec sélection en fonction des compétences, sélection en fonction des provenances. On a, au contraire, un discours qui dit « Mais regardez, il y a du droit à émigrer, on l'organise », et qui, derrière, atteint véritablement la notion d'asile dans la partie la plus humaine.
Et voilà, avec Ghislaine Glasson-Deschaumes, on termine cette première partie sur l'externalisation de l'asile et de l'immigration, donc une journée d'études organisée par le GISTI le 20 mars dernier. La semaine prochaine, on continue sur la question. On entendra une personne de la CIMAD et d'autres membres du GISTI qui parleront plus précisément de la manière dont l'Union européenne s'y prend pour contrôler les migrants et pour surtout les empêcher de seulement parvenir aux frontières de l'Union européenne. On en profite pour vous rappeler, dans la même idée, que le 29 avril, il y a une manifestation contre le CESEDA, qui est donc une réforme que souhaite introduire Monsieur Sarkozy pour pouvoir mieux choisir l'immigration en fonction des besoins en ressources humaines de l'Europe, ce qui est donc exactement dans le droit fil de ce que viennent de vous expliquer Emmanuel Blanchard et Claire Rodier sur l'externalisation de l'asile et de l'immigration.
On approche, Chico. Attention, enclenche les rétrofusées.
Voilà, c'était une nouvelle édition des Oreilles Loin du Front pour réaliser cette très jolie émission. On avait avec nous les Big Jim de la réalisation en la personne de Fred et Jérémy, un doigt sur le potentiomètre et l'autre sur la gâchette. De l'autre côté de la vitre, il y avait Guillaume et ses beaux disques de néo-pop-rock moldave. Et puis, il y avait Juliette. Juliette, ce soir, à mi-chemin entre Yann Parentoen et Marie-Laure Augry. Prise de son, montage, coupage, présentage, c'était elle ce soir. Il y avait aussi Alexandrine. On se retrouve la semaine prochaine pour la suite de cette émission, pour la suite de la diffusion de cette conférence du Gisti. Pour en savoir plus et retrouver ce que vous avez pu entendre ce soir et les semaines précédentes, il y a le site loldf.free.fr, loldf.free.fr. Et voilà, on vous abandonne dans les bras les échos du Capricorne qui ont l'air très très pressés de reprendre l'antenne. Donc on va leur donner. À ciao.